Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Bram FM, il est 13h passé de 2 minutes, nous sommes le 20 janvier 2023. Aujourd'hui nous vous embarquons dans une émission musicale et dansante pour la 7ème édition de la Nuit de la Bourrée qui se déroule samedi prochain à Sainte-Féréole. J'ai le plaisir d'être accompagnée dans le studio d'Olivier Durif. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Alors vous êtes membre fondateur de l'association Délirer des Notes, ancien directeur du CRNTL et bien sûr danseur et musicien et chanteur, on le verra aujourd'hui. Et nous sommes ensemble en première partie d'émission pour parler donc de la Nuit de la Bourrée et tout particulièrement de la Bourrée. À 13h30, vous entendrez le journal régional et en deuxième partie d'émission, Johan sera avec nous pour nous parler de sport, histoire de se réchauffer avant ce week-end un peu froid, enfin c'est normal cette saison. Le nouveau plan de chasse du gouvernement fait débat, vous l'entendrez à 13h50, c'est le sujet de la chronique en Limousin, signé Thomas Vandendrich. Et à 13h55, je vous donnerai la météo de ce week-end, c'est promis. Vous avez le programme de l'heure à venir, vous êtes ici sur Bram FM et nous sommes jusqu'à 14h en direct. Et dans une semaine à Sainte-Féréole, la 7ème édition de la Nuit de la Bourrée va se dérouler. Une nuit organisée par l'association Délirer des Notes en partenariat avec le Centre Régional de Musique Traditionnelle en Limousin. Et j'ai donc le plaisir de vous accueillir, Olivier Durif, rebonjour. Et je le disais, donc vous êtes membre fondateur de cette association créée pour cette Nuit de la Bourrée. Et donc nous allons ensemble traverser un peu l'histoire de la bourrée en Corrèze. Racontez-nous donc la genèse de cette danse par chez nous.
Alors la genèse, j'aurais du mal à vous en raconter des choses en direct parce que je suis jeune encore, même si j'ai 70 ans, mais elle est née bien avant moi et je n'étais pas là dans les Monédières quand elle était au plus fort de sa renommée, cette bourrée que les gens venaient voir les gens qui dansaient. C'était un spectacle autant qu'une danse. Et donc, moi j'arrive dans les années 70 et effectivement j'arrive avec mes gros sabots, c'est moi qui les ai les gros sabots, pas eux, et avec mes gros sabots en pensant que la bourrée, oui c'est une belle danse du pays, mais ça doit être vraiment les gros sabots. Et ben pas du tout.
Alors pas vous du avez tout, dit du tout. Pas eux. Vous avez dit c'est moi qui avais les gros sabots, pas eux. Qui c'est eux?
Eux, bah, c'est les gens qui étaient d'ici, les personnes, on va dire, d'un certain âge à l'époque, qui étaient encore, qui dansaient cette bourrée. Et qui en avaient, j'allais pas dire, ils en avaient à la fois la nostalgie et aussi l'envie qu'on passe à autre chose, parce qu'en fait, ben voilà, ça avait passé de mode, on peut plus faire ça, les jeunes n'en veulent plus. Dans les années 30, on commençait à arriver, il y avait le bal des vieux et le bal des jeunes. Déjà, cette chose abominable qui est cette espèce de ségrégation qui vaut pour les deux, les jeunes comme les vieux. La danse, c'est pour tout le monde. La danse, c'est pas d'un âge. La danse, c'est un moment donné de liberté dans une société, et autant qu'elle soit rassemblée. Mais il fallait qu'à un moment donné, les choses se séparent. Les jeunes voulaient le jazz. À l'époque, il n'était pas du jazz. Si on entendait le jazz qui se jouait, c'était sans doute de la musique traditionnelle, mais avec du saxophone au lieu de la cabrette. Mais en fait, bon, voilà, c'était comme ça. Et donc nous, on arrive et on découvre ce monde de danse. Moi, j'avoue que la première fois que j'ai vu danser par des bons danseurs de bourrée, mais je suis absolument ébahi. C'est une danse de Sioux. C'est une danse de Sioux. C'est fou, quoi. Il y a une espèce d'impact. Et on fait cercle, c'est-à-dire qu'on élargit le cercle parce qu'on ne peut pas tous danser la bourrée. Les salles sont petites. Mais quand même, il y a quand même quelque chose d'incroyable, quoi. Une espèce de grâce, des gens âgés déjà, puis qui d'un seul coup, hop, se sont mus comme par ressort et qui se mettent à danser, tantôt à plat, tantôt en faisant des espèces d'entrechats. Écoutez, vous tombez amoureux instantanément de ça. Vous pouvez pas, c'est irrésistible. Aujourd'hui, on les connaît plus, ils sont morts il y a longtemps, ces gens-là. Ces gens qui nous ont montré ces choses-là. Mais honnêtement, je souhaite aux jeunes de pouvoir danser comme ils dansaient eux, quoi. Ça avait quelque chose d'incroyable.
Dans les années 80, alors que vous étiez directeur du CRMTL, me semble-t-il.
Un peu plus tard, dix ans après, mais on a commencé ce travail dans les années 75 soit jusqu'à 80 dans des associations où le centre n'est venu qu'après, quoi.
Alors on peut parler de ce travail. Vous avez décidé de collecter ce que vous avez pu du patrimoine de la musique traditionnelle par ici. Racontez-nous cette collecte.
Eh ben, c'est la même chose, ça a été comme pour la découverte de la bourrée. D'un seul coup, on s'est dit, ben oui, peut-être qu'il y a des musiciens, peut-être qu'il y a des chanteurs, peut-être qu'il y a des chanteuses, des conteurs, des conteuses, des gens qui savent des choses. Et puis en fait, on s'aperçoit qu'il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Des violoneux, il y a un certain monsieur dont je ne répéterai pas le nom, qui se pensait spécialiste de la question, disait, mais il n'y a jamais eu de violoneux dans les monnaidières. Ah oui, il n'y en a jamais eu. Ben écoutez, nous on en a retrouvé 50 ou 60, il y en avait un par village, et parfois plus. À Chaumeil, il y avait une vingtaine de jeunes qui jouaient du violon et qui jouaient pour faire danser.
Vous avez fait du porte-à-porte et vous les avez rencontrés, vous les avez enregistrés?
Ben, ceux qui étaient encore là, effectivement, oui, on les a enregistrés. Et puis, bon, après un petit instant d'émoi, parce que quand même, on était un peu plus barbus et chevelus que maintenant, mais enfin, quand même bien comme ça. Eh bien, mais finissez d'entrer, il n'y a pas de problème, on va vous dire ça. Et puis, en fait, nous, on s'était pris au jeu, mais eux aussi s'y sont pris au jeu. Parce que finalement... Que leur importait qu'on soit pas d'ici ou qu'on soit de là, qu'on soit pas bien propre sur nous à la façon dont ils le pensaient. Ce qui les importait, c'est qu'on était musicien et qu'on avait envie de jouer cette musique. Et pour eux, c'était inoubliable. C'était le temps de leur jeunesse où ils avaient appris à jouer du violon. Et ça a commencé comme ça, quoi.
Et puis, il y a une grande question qui est au cœur de vos préoccupations, c'est la question de la transmission, la question de sortir cette notion du folklore poussiéreux de cette musique traditionnelle qui est plus que vivante.
Vous savez, la poussière, c'est personne qui l'a produit, c'est le temps qui l'a produit, la poussière, malheureusement. Et quand on s'installe dans quelque chose qui ne se renouvelle pas, la poussière vient. Donc... les gens qui avaient inventé les danses folkloriques dans les années 20 ou dans les années 30, ici en Corrèze, mais bien ailleurs, ils avaient un parfait état de disponibilité par rapport à tout ce qui était ce qu'ils avaient envie de faire. Ils voulaient faire du théâtre à la campagne, ils voulaient montrer la vie des gens. Tout ça était vraiment très très moderne quelque part. Et puis ils se sont fait prendre peut-être, hein, pas tous d'ailleurs en plus, parce qu'ils se sont fait prendre au piège de la forme, c'est-à-dire oh, on va faire comme il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Et nous on a bien remarqué que quand on a constaté, que quand on a fait ces études sur la danse ou sur la musique, on a bien vu qu'il y avait une différence notable entre ce qui était fait, la précision qui était faite par ces danseurs de tradition, qui était... avec des figures qui étaient complètement improvisées, et puis là on se retrouvait avec des figures qui étaient imposées. Voilà, dans le patinage artistique, il y a les figures imposées et les figures libres, ben c'était pareil. Donc nous on est resté plutôt du côté des figures libres. Et ben ça change, évidemment, ça change, ça montre la diversité, ça montre que la danse, c'est quelque chose qui est une passion éternelle et qu'on ne danse pas la veille comme on a dansé, comme on dansera le lendemain. C'est ça la vie. Et ces danseurs-là, ils avaient prouvé ça. À l'intérieur d'un genre qui était tout à fait reconnaissable et identifiable. Mais voilà, improvisé. Et c'est ça qui nous a intéressé de transmettre. On n'y est pas toujours arrivé. On a mis plus de temps qu'on ne le pensait. Mais en fait, c'est bien ça, cette pensée-là qu'on a fait diffuser, qu'on a essayé de diffuser, en tout cas en Corrèze, dans le Limousin ici, mais comme bien d'autres dans d'autres régions de France, c'est même la généralité. Et sans regret pour le passé, mais sans non plus l'oubli non plus. On n'a jamais oublié le passé, mais on a prétendu que cette musique-là, cette danse avait du sens pour aujourd'hui. Et sans doute, puisque la nuit de la bourrée, c'est dans 15 jours pour le futur.
Alors vous parlez du passé et du futur, parlez-nous donc de la bourrée.
Alors, le monde populaire, en fait, souvent, il n'est pas si créateur que ça. c'est pas lui qui crée la labourée, c'est pas, ça date pas des Gaulois, comme on entend, ça date des Gaulois. Non, oui, d'accord, oui, bah forcément, tout date des Gaulois, tout, et même d'avant, Adam et Ève. Mais en fait, le monde populaire, il s'approprie des choses. C'est-à-dire qu'il détourne un certain nombre de danses qu'il a vues danser autrement, ailleurs, et petit à petit, il les fait siennes. Et dans le monde populaire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quand même vécu en France avec 15 siècles d'esclavage. La paysannerie française, c'est une paysannerie qui n'a rien du tout, qui ne possède rien, et qui donc vit dans un état particulier qui lui permet d'avoir sa danse à lui, mais qui n'est pas la danse des puissances, qui n'est pas la danse... Mais par contre, on s'en inspire, on va chercher les choses qui arrivent, qui évoluent, avec beaucoup de retard et avec beaucoup de sagesse. Les gens intègrent petit à petit des formes, et la labourée vient de ça. La forme qu'on connaît aujourd'hui de la labourée, elle n'est pas si ancienne que ça, elle date du milieu du 19e siècle, dans sa forme achevée. Mais par contre, elle est inspirée par des choses beaucoup plus anciennes. Et probablement, alors ce qu'il faut savoir, c'est que le monde populaire, lui, il n'a pas d'instrument de musique. Ça n'existe pas. Il faut des sous pour avoir des... Et ils n'en ont pas, des sous. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a un seul instrument dont on dispose et que tout le monde dispose, c'est la voix. C'est comme ça, les premiers bals et les bals jusqu'au début du siècle, la majorité des bals de campagne en Corrèze, ça se fait à la voix. L'instrumentiste, quand il y a un instrumentiste, eh ben c'est formidable, mais ce n'est pas la généralité. Donc, c'est la voix qui conduit la danse, et qui est danseur peut être chanteur après, qui est danseuse peut être chanteuse après. C'est comme ça que l'histoire se fait, et c'est comme ça que ce répertoire-là s'est transmis. Alors là, ça c'est sûr, c'est transmis de bouche à bouche et d'oreille en oreille.
Et vous êtes là avec votre voix aujourd'hui, pour notre plus grand plaisir, Olivier Durif. Est-ce que vous voulez bien chanter ?
Chanter, oui, mais je veux pas... Non, je voulais juste montrer qu'est-ce que c'était que justement cette danse, ces mélodies, qui sont souvent des mélodies très, au départ très simples, puis petit à petit qui deviennent très complexes, dans lesquelles... Au début, on a un petit bout de parole qui sert d'argument. Souvent, d'ailleurs, les paroles sont en limousin, en occitan. Je vous garantis que ce n'est pas le club des poètes. Hein. Ce qui est dit dedans, la plupart du temps, c'est un peu vert comme langage. Mais ce n'est pas ça qui est intéressant. C'est surtout ce qui s'y déroule et ce qui peut se chanter. Et... Bah, je sais pas, ça peut faire.
Merci beaucoup.
Voilà, c'est ça, ces choses-là qui se transmettent. Et quand on est gamin, on écoute ces gens qui chantent. Souvent, c'est des personnes âgées, parce que souvent, celui qui danse, celui qui chante, c'est celui qui ne peut plus danser ou qui a du mal ou qui ne peut pas toutes les faire. Et souvent, c'est des gens âgés qui font danser avec un bâton monté sur une estrade et puis hardi petit.
Et alors, ils étaient nombreux à chanter ?
Oh là, mais comme disaient les violonneux, oh mais c'était plein ! Dans la chambre à coucher, on était 6, il n'y avait plus de place. Un bal, c'est vite fait. Comme disait le violonneux, un certain violonneux, il dit, pour faire un bal, ce n'était pas difficile. Il suffisait d'avoir un violon et d'amener des filles. Et après, le bal se faisait. Il n'y avait pas de problème. Donc, en fait, les occasions de bal, jusqu'à la fin du 19e siècle, ce sont des occasions très locales. On ne peut pas aller bien loin. On va à pied. Hein. C'est pas, les vélos commencent juste à arriver, mais la plupart des gens, ils vont à pied. Donc, on ne peut pas aller très loin. Quand on va à 3 km, oulala, mais là, on est allé loin. Hein. Il n'y a pas de problème. Donc c'est comme ça que cette sociabilité qui a permis ces bals de se faire et de cette façon-là. Peut-être qu'on y reviendrait un peu d'ailleurs aujourd'hui, je ne sais pas. Le Covid a remis en honneur une certaine forme de proximité. Les gens se sont passés à travers les bois pour aller rencontrer leurs copains, même si ce n'était pas permis. Et on voit bien que d'un seul coup, la proximité reprend du sens, raconte quelque chose.
Oui, il y a deux choses, je pense, qui reprennent du sens actuellement. On l'a vu notamment aussi avec Brahma ou San Salvador. C'est aussi le désir finalement de se réapproprier cette culture qui a été mise au placard pour des questions politiques, hein, on en a parlé hors antenne, le désir quelque part de faire un lissage sur cette culture française de part et d'autre du territoire, finalement qui a mis de côté des traditions, mais aussi finalement notre culture à tous, et puis à ce désir aussi par la jeunesse de se réapproprier cette culture-là.
Bah, je crois que c'est éternel, hein. Je veux dire, c'est... Moi, je crois que le monde culturel, c'est un monde cyclique, c'est-à-dire on réhabilite des choses qu'on a oubliées ou qu'on a laissées de côté. D'un seul coup, les jeunes générations trouvent ça génial. Moi, je vous en ai raconté assez pour vous dire à quel point je me suis fait avoir, moi. Mais pour la bonne cause, en fait, en réalité, parce qu'en fait, on a redonné du sens. Et puis, petit à petit, les choses se flétrissent, comme disait le poète, il n'est citant belle rose qui, à la fin, ne devienne gratte-cul. Mais c'est d'autres fleurs qui fleurissent. Et c'est ça le rôle de la transmission, en fait. Ce n'est pas d'être éternel, ce n'est pas de fixer quelque chose de définitif, c'est de permettre que d'autres s'en emparent et les emmènent ailleurs. C'est le principe de toute la vie sur Terre, hein, les fleurs, les semences s'en vont au gré du vent et refont autre chose. Et c'est ça le principe de cette évolution culturelle aussi, c'est de semer quelque chose. Aujourd'hui, ben, effectivement, il y a des groupes nouveaux qui arrivent, notamment en Corrèze, et ces gens-là se sont inspirés des acquis. Ils n'ont pas systématiquement dit que ça ne les intéressait pas. Et c'est le problème d'aujourd'hui, c'est d'avoir ce recyclage en permanence de l'intelligence humaine. Moi, je pense à ça de toutes les époques. Il y a des gens intelligents, il y a des gens curieux qui savent observer et qui savent en faire quelque chose pour l'avenir et pour le monde autour d'eux.
On va écouter un titre d'un groupe qui va passer pour les nuits de la bourrée, Le Bourgeois et le Paysan de Farem Topetar. Je ne sais pas si je le prononce bien.
Farem Topetar.
Voilà.
On fera tout péter.
On va l'écouter et puis juste après on parlera de la belle programmation pour la nuit de la bourrée. Vous êtes ici sur Bram FM, nous sommes ensemble jusqu'à 14h en direct.
Entero te, entero.
le bourgeois et le paysan du groupe Farem Tot Petar. Alors, nous sommes ici, enfin vous êtes ici, sur Bram FM. On est en direct jusqu'à 14h et jusqu'à 13h30. Mon invité, c'est Olivier Durif, avec qui nous parlons de la bourrée, de l'histoire un peu de la bourrée ici, dans le coin, en Corrèze. Et puis, nous allons parler évidemment de cet événement, la Nuit de la bourrée. C'est la 7e édition. Vous avez été privé de Nuit de la bourrée pendant 2 ans.
Ben nous, oui, mais surtout les gens qui voulaient danser aussi.
Et oui, vous et les auditoristes qui ont déjà participé et qui sont déjà venus. Alors, 7e édition qui aura bien lieu la semaine prochaine, le 28. Alors, on dit la nuit de la bourrée, mais il y a aussi la journée, soirée et nuit. Donc, parlez-nous de ce programme, Olivier Durif.
Alors, quand on dit d'ailleurs la nuit, c'est la vraie nuit. C'est-à-dire.
Alors, racontez-nous peut-être l'histoire de la nuit de la bourrée.
Eh ben la nuit de la bourrée, on s'est dit que quand même... Alors, vous savez, dans les bals, la bourrée, c'était pas trop... Les musiciens n'aimaient pas trop, parce qu'en fait, ça prenait de la place, et puis surtout, il y en avait certains qui savaient danser, d'autres pas. Et donc, quand on faisait une bourrée, ben, ça veut dire que les autres allaient boire un coup, et que le bal s'arrêtait, qu'il fallait recommencer après, etc. Et là, on s'est dit... Alors, on s'est dit, il faut quand même faire un truc autour de ça. C'est les fondus de la bourrée, il faut qu'ils en aient pour leur argent... et pour leur temps. Et en fait, bah, c'est ça qu'on a fait, c'est-à-dire ça commence effectivement dans l'après-midi, effectivement, avec les stages, je vais y revenir, mais ça commence vraiment à 19h, et ça finit
à
7h du matin pour ceux qui restent, et on leur offre les croissants et
la soupe à l'oignon.
Et la soupe à l'oignon à 3h pour reprendre des forces, voilà, c'est une vraie nuit, c'est jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et quand on a commencé ça, tout le monde disait bah, « vous êtes fous, vous êtes complètement fous ». Bah si, si.
Mais la folie et le génie sont parfois assez...
Non mais je veux dire, les gens sont pris dans cette ambiance et c'est ça qui est intéressant. Après il y a les gens qui arrivent à 9h du soir, qui repartent à 11h30, voilà, ils rentrent chez eux, c'est leur... Mais il y en a une bonne trois quarts qui continuent, bah oui, tiens, puis on annonce dans une heure il y a la soupe à l'oignon, allez hop, la soupe à l'oignon, ça, les gens disent bon, on va rester jusqu'à la soupe à l'oignon, puis en fait ça repart après, encore ça continue, voilà, c'est comme ça.
Alors parlez-nous des stages qui ont lieu donc de 14h à 17h samedi prochain, donc dans le cadre de la nuit de la bourrée.
Alors évidemment il y a des stages de danse, alors pas forcément il y a des stages de danse un peu pour des gens qui veulent en apprendre plus qu'ils n'en savent déjà, mais il y a surtout une initiation qu'on fait pour les gens qui savent pas du tout danser ça et à qui on montre les rudiments qui puissent rentrer dans la danse. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui... Souvent, les gens disent « Ah ben oui, mais on ne sait pas faire, on peut... » Ben si, ben venez à 17h30, à 18h, pendant 1h15, on va vous montrer les rudiments. Vous pourrez après, en plus, vous ferez connaissance avec un certain nombre de gens qui seront là. Et puis, vous pourrez danser avec d'autres. Vous pourrez vous initier à l'histoire. Et puis, bon, on voit bien, on a vu des gens, effectivement, raides comme des piquets la première année, qui sont devenus des vrais danseurs et danseuses de bourrée. Il n'y a pas de problème. C'est pas... Parce que c'est une danse qui, en fait, qui demande beaucoup de, voilà, comment dire, de souplesse et en fait de délicatesse, en fait, en réalité. C'est pas une danse où on tape comme des sourds. Non, c'est pas que comme ça. C'est ça aussi, mais c'est fait délicatement, voilà. Donc il y a ça, il y a ces stages de danse, et puis des stages musicaux pour ceux qui veulent s'initier à la musique de bourrée. Donc il y a un stage de violon, et puis de chant aussi, un stage de chant pour ceux qui veulent s'apprendre à chanter ces choses-là. Bon, ce sont des stages de vulgarisation, ça dure une après-midi, il faudrait passer 8 jours pour pouvoir être un peu plus qualifié, mais ça permet aux gens, quand ils sont dans le bal, ils sont pas tout neufs d'un seul coup, ils ont déjà une culture de ça, et ils savent comment ça marche, c'est un peu ça notre histoire, et c'est fait par des gens, notamment des gens qui vont jouer le soir, donc encore plus d'affinité encore avec ça, c'est comme ça qu'on organise ces stages, donc ça commence à 14h, on peut s'inscrire sur place, par contre c'est bientôt plein.
Oui, il faut s'inscrire.
Il faut s'inscrire. Il y a encore quelques places sur le stage de bourrée. Voilà, il y en a encore quelques places, mais il faut faire vite. Il faut vraiment s'inscrire parce que les autres sont quasiment pleins. Ça arrive très vite là maintenant. Et Bon, voilà, c'est un... En plus, ça, vous avez un tarif préférentiel après pour rentrer dans la fête.
Et c'est 20 euros, il faut compter 20 euros pour le stage, avec donc le tarif réduit pour l'entrée à la nuit de la bourrée. Il nous reste quelques secondes, on va annoncer donc que l'ouverture du bar et l'entrée du bal se fait à 17h30. Voilà. Des 18h à 19h, initiation aux danses de bal. Et puis à partir de 19h, grand bal pour une nuit de danse avec 5 groupes sur la scène. Trio des barreaux verts, triplette, Farem Tot Pétard qu'on a entendu, Carbone 14, Moisbet, j'adore ce nom, et 4 groupes en interplateau pour faire vibrer le parquet.
Voilà, et puis aussi on peut manger et boire raisonnablement.
Raisonnablement, évidemment. De toute façon, il y aura de quoi décuver toute la nuit en s'agitant,
de toute façon,
en s'envolant vers je sais pas.
Tout à fait.
Merci infiniment, Olivier Durive, d'avoir été à mes côtés aujourd'hui.
Eh bien, que d'autres viennent voir cet événement. Ça en vaut la peine.
On peut rappeler le nom de l'association, évidemment, qui organise cet événement, c'est Délirer des Notes, où vous pouvez retrouver toutes les informations. Vous avez une page Facebook, on peut redonner peut-être un numéro de téléphone éventuellement pour la fin des inscriptions pour les événements. Je peux donner celui que j'ai noté ici. C'est le 06 85 87 94 50. Le mail, c'est délirerdesnotes@gmail.com. Et je crois qu'on a tout dit. Encore un grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous parler de cette histoire de la bourrée qui a traversé les années et qui va encore traverser les années pour le futur. Merci infiniment, Olivier Durif, d'avoir été mon invité. Dans quelques instants, nous parlerons de sport avec Johan. Voilà, j'en dis pas plus. Il est 13h passé de 31 minutes et c'est l'heure du journal régional.
L'actualité en Limousin et Périgord, le journal des radios associatives libres. Sébastien Péjou.
Bonsoir à tous. À peine terminé qu'une nouvelle mobilisation contre le projet de loi de réforme des retraites est annoncée. Hier soir, la commission exécutive de l'Union départementale CGT Haute-Vienne a pris la décision d'organiser un nouveau rassemblement suivi d'une manifestation à Limoges ce samedi 21 janvier à 14h. Déjà hier, sur les pavés de la cité porcelainière, près de 10 000 manifestants protestaient contre un départ à la retraite à 64 ans. Charline Do était sur place.
Ils étaient nombreux à protester contre la réforme des retraites. Hier, 36,5% des enseignants de l'académie étaient mobilisés. À Limoges, dès 13h30, des soignants, étudiants, pompiers et même des retraités se sont réunis place Tourny. Pour cette étudiante, la retraite n'est pas un lointain sujet de préoccupation, mais une problématique bien actuelle.
On est beaucoup à être précaires chez les étudiants et la plupart des gens précaires n'atteindront pas cet âge de retraite-là de toute façon. Donc nous, on aimerait bien pouvoir profiter de quelques années quand même et savoir que là, actuellement, on travaille dans nos études, c'est pas pour rien, c'est pour avoir un taf qu'on va aimer et qui va pouvoir nous faire vivre, et plus que ça, il faut qu'on se bouge maintenant pour pas que le tout s'enlise, quoi, c'est tout.
Le corps professionnel des soignants était également représenté. Jean-Christophe Razé, secrétaire départemental de Force ouvrière du département Santé.
On sait très bien que dans la santé, eh bien, pour la plus grande majorité, c'est lever les patients, etc. Qu'à partir de 40 ans, 45 ans, c'est les troubles musculo-squelettiques qui prennent le dessus.
Et en fin de cortège, retentissaient des sirènes actionnées par plus de 70 pompiers. Nicolas Corneloup, secrétaire général du syndicat Force ouvrière du SDIS 87.
Non seulement on a les problèmes d'effectifs au niveau de la Haute-Vienne, au niveau des pompiers professionnels, et en plus vient se greffer la réforme des retraites qui va faire qu'on va travailler jusqu'à 64 ans. Nous, on a une décote, on peut 59 ou 60, mais c'est impossible pour des pompiers à 59 ans monter en haut de la grande échelle ou aller éteindre des feux, ça va être très compliqué.
Le cortège a réuni 10 000 personnes selon les autorités, 28 000 selon la CGT. A savoir que 500 salariés de l'entreprise Legrand sont venus gonfler les rangs des grévistes. Charline Do, KO1 FM pour Le Graal.
Merci Charline. Plusieurs mobilisations hier donc contre ce projet de loi de réforme des retraites en Limousin et Périgord, à Limoges, mais aussi à Brive avec plus de 3000 personnes, 800 à Ussel, 6000 à Tulle, près de 4000 personnes à Guéret et entre 6500 et 10000 personnes à Périgueux. Les transports scolaires sont suspendus toute la journée en Dordogne en raison de la neige. Hier soir, 15000 foyers étaient privés d'électricité dans le département. Des équipes d'Enedis ont rapidement été mobilisées. La Haute-Vienne était de nouveau touchée touchés par des dysfonctionnements pour joindre les pompiers hier. En cas de difficulté avec le 18, le SDIS de la Haute-Vienne appelle les personnes dans le besoin à composer le 112. Une panne sur le réseau téléphonique avait déjà touché les services d'urgence du département en milieu de semaine. 552 nouveaux foyers sont connectés à la fibre en Creuse. Des lignes optiques ouvertes à la commercialisation par Nouvelle-Aquitaine Très Haut Débit. Le réseau, lui, est déployé par Dorsal, tout comme en Haute-Vienne, pour une majeure partie du territoire. Le secteur concerné par ce nouvel accès à la fibre est la communauté de communes du Pays du Noix, particulièrement les communes de Crozant et de Laffa. Le match de Challenge Cup du CA Brive contre Cardiff est avancé. Il aura bien lieu demain, samedi 21 janvier, mais à 16h15 et non pas 21h comme prévu initialement. C'est le risque de gel qui a motivé cette décision. Il ne gèlera pas au repère des artistes à Bussière-Poitevine. Demain soir, la chanteuse Limousine et Marim réchauffera l'ambiance. Après une première partie d'Olivier Mattei et Stéphane Kerriou, la chanteuse originaire de Haute-Vienne donnera un concert de 2 heures, des compositions et quelques reprises, pour la plupart issues de ses 2 albums, J'ai fait le rêve et À ciel ouvert. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.
Vous êtes ici sur Bram FM.
Et vous retrouverez le journal régional à 17h et à 18h30. Vous êtes ici sur Bram FM au 98.3 ou via notre site internet bramfm.com. Nous sommes en direct jusqu'à 14h. Dans une quinzaine de minutes, vous entendrez la chronique en Limousin dont le sujet est le nouveau plan chasse. À 13h55, vous entendrez la météo de votre week-end. Dans quelques instants, nous parlons sport en compagnie de Johan, notre chroniqueur qui m'a rejoint dans le studio. Juste avant, je vous propose une courte pause en musique avec le groupe Empagaille. Empagaille, c'est du jazz créole. Dans la grande sono mondiale, l'équipage d'Empagaille ne manque aucun continent pour ses escales. Un pied partout, une main dans chaque endroit et l'oreille qui surplombe tout ce qu'on a pu connaître jusque-là. C'est parfait, c'est cool de grosses basses. La force ancestrale et populaire du Maloya, venue des côtes créoles de l'île de la Réunion. De cette île, cette musicienne et musicien sont partis pour croiser les bruits du monde et les frémissements des mélanges en musique. Attelage étonnant, Empagaille avance grâce à 2 batteries, une basse profonde et 2 chanteuses captivantes. Leur influence naît des eaux de l'océan Indien, des mascareignes, des rivages colombiens, saxe furieux, chœurs vocaux enchanteurs, voix solistes magiques. Empagaille brûle le monde par les 2 bouts de l'harmonie façonne, des alliages rythmiques impossibles à ignorer, impossibles à oublier. On l'écoute.
Mon pays casse-boi en tôle. Mon pays, mon pays, mon pays casse-boi en tôle. Mon pays, mon pays. Gamoun la douvante,
tirez-moi la pagaille et demain à trouver.
Tigin bois douvant barro, gamoun la douvante, tirez-moi la pagaille et demain à trouver.
Somin Tegor du groupe En Pagaille, qui sera donc évidemment dans le cadre du festival du bleu en hiver ici à Tulle. Donc c'est ce soir à 21h au Magic Mirror. Pour l'heure, à 13h passé de 42 minutes sur Bram FM, on va parler de sport pour se réchauffer un peu et des événements de sport avec toi, Yoann. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on t'écoute. Il se passe pas mal de choses en ce début d'année, me semble-t-il.
Oui, c'est cool. Bon, bonjour à toutes et à tous. Donc, comme tu le disais, ce début d'année est très chargé en événements sportifs. Moi, je trouve ça très cool parce que du coup, j'ai plein de choses à vous raconter. Lors de ma dernière chronique, je vous ai parlé du Dakar où nos Français, surtout en auto, étaient venus jouer la gagne. Et je vous avais dit que c'était mal barré. Bon, je vous confirme qu'ils n'ont pas gagné, puisque c'est Nasser Al Attiyah qui a gagné son 5e Dakar. Pour autant, Sébastien Loeb, qui au final finira 2e, donc un mauvais résultat pour lui avec les habitudes qu'il a réussi à marquer ce Dakar de sa patte. En effet, il a remporté 6 spéciales d'affilée, ce qui n'était jamais arrivé. Il faut se rendre compte de ce que c'est. Une spéciale, c'est pas juste rouler vite dans le sable. C'est ne pas se perdre, ne pas se planter dans le sable ou se renverser sur une dune. Et c'est encore plus dur, c'est que celui qui gagne un jour, très souvent, ouvre la route pour les autres le lendemain. Il part en premier, il n'y a aucune trace dans le sable. Donc vous ne devez pas vous tromper, mais en plus vous facilitez le travail des autres puisqu'ils peuvent suivre vos traces. Et bien pendant 6 jours d'affilée, malgré ses handicaps, il a fini devant tout le monde et ça c'est fort. Et comme l'avait dit Johnny à son époque, s'il n'avait pas perdu quasiment 2 heures sur les premières étapes pour des soucis mécaniques, eh bien il serait arrivé 2 heures plus tôt et aurait donc gagné la course. Mais bon, c'est la magie du sport, il reviendra l'année prochaine et puis il finira bien par gagner. Pour ce qui est des événements en cours, en ce moment nous avons les mondiaux masculins de hand auxquels participe notre équipe de France. Pour vous la faire courte, l'équipe de France, c'est 6 titres de champion du monde, dont 5 depuis 2001, 3 championnats d'Europe tous remportés à partir de 2006, 3 fois champion olympique tous remportés après 2018. En bref, cette équipe a marché sur le handball mondial pendant des années avec des joueurs fantastiques, Nikola Karabatic, Thierry Omeyer, Daniel Narcisse, tous nommés au moins une fois meilleurs joueurs du monde pendant leur carrière, et j'en oublie tellement cette équipe a vu passer des immenses joueurs. La plupart de ces grands joueurs ont pris leur retraite ou un peu vieilli, ce qui fait qu'on domine moins le hand mondial. Pour autant, nous avons toujours une grande équipe qui avance avec ambition dans cette compétition. En témoigne leur premier tour où ils ont remporté 3 victoires en 3 matchs et désormais le tour principal qui doit leur permettre d'accéder au quart de finale avec déjà une victoire. Il en manque une seule pour se qualifier. Même si nous sommes habitués à gagner tout le temps, il faut quand même se rendre compte qu'enchaîner les demi, les finales ou les titres, c'est du jamais vu dans un autre sport co-français et dans le sport de manière générale. Ça n'existe pas une équipe qui gagne tout le temps, à part cette équipe de France. Alors je ne sais pas si vous allez au bout, mais perso j'adore ce sport. Les matchs sont toujours hyper tendus, hyper serrés. On étouffe certains jours devant le match tellement ça peut basculer à n'importe quel moment. Les chaînes de télé gratuites malheureusement ne s'y intéressent que quand on est en finale, mais pour ceux qui peuvent voir les matchs, c'est grandiose. Les gars font des trucs dingues avec le ballon à des vitesses folles et on a l'impression que c'est facile. Vous l'aurez compris, je vous le recommande chaudement. D'ailleurs ce soir à 18h, il y a le deuxième match du tour principal Iran-France, bien entendu qui n'est pas sur une chaîne en clair, qui est sur Beansport. Mais comme il n'y a pas que le hand dans la vie, je vais vous parler un peu de tennis. Souvenez-vous, je vous ai parlé de Caroline Garcia, notre Française, qui a retrouvé un niveau de jeu digne des plus grandes. Eh bien, elle est engagée sur l'Open d'Australie, un des tournois du Grand Chelem. Comprenez, un des tournois majeurs de la saison. Elle arrive sur ce tournoi parmi les favorites et a pour objectif d'enfin décrocher un de ces fameux tournois du Grand Chelem. Hier, elle a remporté son match du deuxième tour avec autorité. Elle a été malmenée par moments, mais elle a toujours su trouver les clés pour remporter les points importants quand il le fallait. Il faudra sûrement faire encore mieux pour aller au bout, mais elle nous a rassurés sur ses dispositions tennistiques du moment. Donc on y croit à fond. A noter côté masculin, l'élimination au deuxième tour du tenant du titre, Rafael Nadal, victime d'une blessure. Je ne sais pas quand il reviendra, mais son corps est de plus en plus usé par le temps et les nombreux matchs qu'il a joués. Alors profitons de pouvoir admirer ce joueur tant qu'il a encore temps, car l'heure de la retraite approche à grands pas pour ce joueur fantastique. Pour ce qui est du local, à noter dans vos agendas les championnats départementaux de natation, alors 19, 87 et 23 qui ont lieu au même endroit, les 21 et 22 janvier à Limoges. Et enfin, le 22 janvier, si la météo le permet, parce qu'on ne sait pas trop comment ça va tourner, a lieu un match de rugby féminin, les Myosotis de Tulle contre le Brive rugby féminin. Donc je ne sais pas si ça va tenir, mais en tout cas, pour le moment, c'est encore en place et c'est pour le 22. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
Merci beaucoup, Johan, de nous faire vibrer avec ta passion pour le sport. Et c'est bienvenu ici sur Bram FM. On se retrouve le mois prochain, d'ici peu, je pense, parce que le mois se termine gentiment, mais sûrement. Donc on se retrouve bientôt. Merci encore d'avoir été avec nous. Je vous propose une autre pause en musique, cette fois-ci avec Ludivine Isambour, qui nous propose donc son projet Antiloops. Vous allez écouter donc le titre Riviera, et puis juste après, je vous en parle. Antiloops, le projet de la flûtiste Ludivine Isambour, qui seront donc demain, samedi, à 21h au Magic Mirror de Tulle, dans le cadre du Festival du Bleu en hiver. Et puis, j'en profite tout de suite pour vous rappeler qu'il y a une émission spéciale en direct du Bleu en hiver demain de 14h à 15h30 avec Philippe et Hubert Bouys de Jazz et Vous. Voilà, donc restez bien à l'écoute évidemment de notre antenne. Pour l'heure, à 13h passée de 51 minutes, c'est l'heure de la chronique en Limousin, signé Thomas Vandendrich.
La chronique quotidienne du groupement des radios associatives libres en Nouvelle-Aquitaine, le rendez-vous de ses territoires et ses acteurs. Le Graal, producteur de proximité en Nouvelle-Aquitaine.
Bonjour à tous, aujourd'hui nous vous parlons de chasse parce que le 9 janvier dernier, le gouvernement a présenté un nouveau plan chasse, plan qui vise à mettre de nouvelles mesures de sécurité. Alors pour comprendre celles déjà en place, nous vous emmenons au cœur d'une battue en Corrèze. Il est 8h30, on arrive à la cabane de chasse, comme il l'appelle. Charles Perrac, le président de la société de chasse de Saint-Mexant, à côté de Tulle, rappelle rapidement les règles de sécurité autour d'un café. Les tirs doivent être fichés vers le sol, on ne tire pas non plus en dehors des 30 degrés face à soi, et puis bien sûr, on porte son gilet fluo orange et on identifie bien sa cible avant de tirer. Chacun choisit son rôle, sur la quinzaine de chasseurs, 3 se retrouvent avec les chiens, 2 sécurisent la route et une dizaine se postent un peu partout dans les bois. Aujourd'hui, la battue se concentre sur les chevreuils. Elle commence vers 9h et une heure plus tard, le clairon sonne. Un des chiens de chasse, Hitoshi, vient de repérer un premier gibier.
Hitoshi l'a pris. Allez, cherche. Allez.
Le premier et le seul coup de feu de la matinée retentit dans les bois. En remontant la côte, nous tombons sur René, posté dans les hauteurs.
Allez, où on est ? Qu'est-ce que t'as vu ? Ça qui a pété ? Oui. Oh putain, bien, félicitations.
Ouais, j'ai loupé.
Non, bravo, René.
Je te félicite. Si je l'avais tué, ça serait bravo.
Ah, superbe, ça fait partie de la chasse.
Mais rappelle-toi qu'il est beau, hein.
Ah, il est beau, hein.
Et si René est le seul de la bande à avoir tiré un coup de fusil, ce n'est pas le cas des chasseurs de Favard, la commune voisine. Charles parle de la pétarade de ses copains lorsqu'il reçoit un coup de fil du maire pour savoir qui avait tiré les coups de feu. Des promeneurs ont eu peur et souhaitent porter plainte.
Il y a des promeneurs qui ont eu peur des coups de fusil, donc ils ont été téléphonés au maire pour se plaindre qu'il y a des chasseurs. Donc les chasseurs chassent sur des propriétés privées, les marcheurs marchent dans les propriétés privées. Faut essayer de s'entendre. La nature n'est pas à tout le monde, il faut pas. Tout le monde dit que la nature à tout le monde, c'est pas vrai. La nature est aux propriétaires. Et puis les chasseurs de Favard ont certainement, comme nous on l'a fait ce matin, donné les consignes de sécurité. Et attention, les chasseurs sont conscients, bien identifiés avant de tirer, donc ils ne vont pas tirer un promeneur.
Pourtant, comme il le dit, les plaintes sont rares. Pour preuve, nous croisons un coureur dans les bois avec qui les choses se passent très bien.
Bonjour.
Merci, bonne journée.
La battue se termine tranquillement, les chasseurs récupèrent leurs chiens et tout le monde se retrouve à la cabane de chasse. Les fusils sont rangés, c'est maintenant l'heure de l'apéro.
Oui, faire un bon repas ensemble avec les copains, c'est bien.
Chasser, c'est avant tout une ambiance, comme nous le raconte Momo. La quarantaine, il travaille dans un abattoir près de Brive.
Se retrouver tous entre les copains, discuter, se raconter des blagues, se chambrer... Voilà, c'est ça qui est intéressant. On n'est pas là pour tuer. Moi, j'ai plus de plaisir à voir l'animal que le tuer. Ce matin, par exemple, j'ai laissé passer le chevreuil.
Et lorsqu'on lui demande son avis sur le délit d'alcoolémie, prévu dans le nouveau plan chasse du gouvernement, il commence par nous parler des anciens, comme il les appelle.
Le gars, il cassait la croûte, peut-être avec un bout de canon à l'époque, mais il y a longtemps. Maintenant, c'est fini, ça. On ne dit pas. Il y aura toujours un tocard, malheureusement. Mais comme un gars qui va prendre sa voiture, c'est la même chose. Non, il n'y a pas de... C'est une mentalité qu'il faut que les gens ils changent, justement. Et ça, c'est vrai qu'on prend cher à cause de ça. Et c'est totalement faux.
Il dit comprendre la peur des autres usagers, mais selon lui, elle serait principalement due au manque d'informations et de communication.
Si les gens venaient rien que passer une demi-journée avec nous, ils verraient que ça serait totalement différent de ce qu'ils ont l'image de voir à la télé ou à la radio. Bon après, bien sûr, le risque zéro n'arrivera jamais, malheureusement. Mais il faut l'éviter. Il faut éviter au maximum qu'on ne prenne aucun risque.
Et pour les chasseurs, l'avenir risque d'être compliqué, tout simplement parce qu'ils sont de moins en moins nombreux. La chasse attire beaucoup moins qu'avant. En 1975, ils étaient 2,4 millions en France. Ils ne sont plus qu'un million aujourd'hui, dont 8 000 en Corrèze. D'après l'OFB, l'Office français de la biodiversité, en 20 ans, le nombre d'accidents mortels en France a été divisé par 4. Le dernier, en Corrèze, remonte à 2016. C'était à Saint-Martin-la-Méanne, à une quarantaine de kilomètres, au sud-est de Tulle. Ce jour-là, un chasseur avait mortellement blessé un autre participant à la battue. Thomas Van Hendrich, Bram FM pour Le Grade.
La chronique quotidienne du groupement des radios associatives libres en Nouvelle-Aquitaine est à retrouver sur legraal.info. Le Graal, producteur de proximité en Nouvelle-Aquitaine.
Et vous retrouverez la chronique en Limousin sur les ondes de Bram FM à 18h, mais pour l'heure... La météo de ce week-end, messieurs, dames. Eh bien, demain, samedi 21 janvier, le ciel sera nuageux dans la matinée, mais laissera place à des éclaircies dans l'après-midi. Les températures matinales seront comprises entre 0 et moins 1 sur l'ensemble de la Corrèze. Et comme le soleil pointera un petit peu le bout de son nez partiellement, l'après-midi, comptez 1 degré à Égletton, 2 à Trégnac, 3 du côté d'Uzerche, 4 à Tulle et jusqu'à 5 degrés à Brive, Argentat et Beaulieu-sur-Dordogne. Dimanche 22 janvier, le ciel sera couvert et nuageux toute la journée. Des éclaircies sont à prévoir dans la matinée, mais je le dis très vite pour que vous ne les entendiez pas trop. Alors, ça dépend parce que plusieurs sources météorologiques, d'autres prévoient plutôt du soleil, d'autres plutôt des nuages, donc ce sera un peu la surprise. Côté température, elles seront froides et de saison, on s'en réjouit. Les matinales seront comprises entre moins 4 et moins 1 du nord au sud. Après le repas dominical, elles seront pas vraiment plus chaude, hein. Les températures resteront même négatives pour certains et certaines toute la journée. Moins 3 à Égletton et Ussel, moins 2 à Trégnac et Saint-Privat, 1 degré à Uzerche et jusqu'à 2 degrés à Tulle, Brive-Argentat, qui sera la maximale du jour. Lundi, le soleil devrait être au rendez-vous. Les températures seront comprises, elles, entre moins 3 et 2 degrés pour l'ensemble de la journée. Le froid restera donc bien présent, couvrez-vous, reposez-vous bien et lundi, Miss Météo fera son retour en studio pour vous annoncer la météo de la semaine. C'est la fin de ce direct et de la semaine d'ailleurs aussi. Un grand merci à Olivier Durif, merci à Johan. Cette émission est à retrouver en podcast sur le site de Bram FM. Retrouvez-nous sur Instagram et sur Facebook pour suivre toute l'actualité. La suite du programme sur Bram FM ce soir, c'est la DJ Academy. Et ne loupez pas nos deux rendez-vous. Demain après-midi, je le rappelle, il y aura une émission spéciale en direct du théâtre et du Festival du Bleu en hiver de 14h à 15h30 avec Philippe et Hubert Bouis de Jazz et Vous. Et puis demain soir, soirée nuit de la lecture, à partir de 20h et jusqu'à minuit, vous entendrez tout au long de la soirée des lectures qui était cette année sur le thème de la peur. Voilà, vous allez entendre quelques témoignages, quelques ressentis et quelques lectures autour donc de cette thématique effrayante. Pour rappel, nous avons fait une émission spéciale autour de la lecture et de la peur hier avec Sébastien Vidal et Fabienne Hiver. Et puis il y avait aussi Clément Vidal qui était là. Donc vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Bram FM comme tous les podcasts. Je vous retrouve lundi à 13h avec Benoît, le nouveau directeur de la salle Des Lendemains qui chantent. On fera donc sa rencontre et puis il nous parlera de la programmation pour les temps à venir. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin d'après-midi et un excellent week-end à l'écoute de Bram FM bien sûr.